filmer à tout prix.
Aujourd'hui, on est avec Patrick Taliercio. C'est comme ça qu'on dit ton nom ?
À peu près. Oui.
À peu près.
Moi, j'aurais dit Taliercio.
Ah ouais ?
Ah ouais, c'est pas mal. Taliercio ou Taliercio ? On peut t'appeler Patrick.
On va t'appeler Patrick.
C'est simple, en fait.
Ça va, Patrick ?
Ça va.
Alors, Patrick, on te reçoit parce que tu participes à la compétition. Donc, tu t'es inscrit à un moment donné, j'imagine. Tu t'es inscrit à la compétition belge du film à tout prix ?
Ah, il faut s'inscrire. Je sais pas, moi j'ai reçu juste un ticket boisson, puis là je viens parce qu'il y a des bonbons, mais je sais pas, au courant de l'inscription, quoi.
Ben en fait, voilà, tu participes à un concours. Bon, nous en fait, on a parié sur toi, donc on espère que tu vas gagner.
Ouais. On a parié gros, Patrick.
Donc on ne sait pas si ça va pouvoir jouer en faveur de notre pari, mais on va parler du film quand même.
C'est vraiment possible.
Ce qui est dur, on peut même pas dire vas-y mets le paquet parce que le film est fait.
Ouais,
on peut même pas dire allez vas-y donne tout.
Donc est-ce que l'émission pourra influencer le jury, j'espère ?
Est-ce que le jury écoute l'émission ?
Je crois pas, je crois qu'ils sont dans les salles.
Ils sont dans les salles.
Bon, on essaiera de les soudoyer.
En tout cas, Patrick, bonne chance et merci d'être venu.
merci.
Alors tu. Plus sérieusement, tu vas présenter, dans le cadre de Filmer à tout prix, le film La seconde fuite d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas ?
Tu peux dire Arthur.
La seconde fuite d'Arthur.
D'Arthur, un film de Patrick.
Ça va être clair pour les auditeurs. Et tu nous proposes, donc le point de départ de ce film, bah, c'est ce voyage qu'a effectué Arthur Rimbaud en 1870 entre Charleville-Mézières et Charleroi. Donc tu décides de refaire en fait ce trajet-là. Et tu vas aller en fait de rencontre en rencontre, tout en racontant, tout en lisant ces poèmes. Et tu fais le portrait finalement d'une région qui est désindustrialisée. Tu montres aussi des villes qui sont en transformation. Tu rencontres du monde qui t'emmène parfois ailleurs. Est-ce que c'est bien résumé ?
Oui, parfaitement.
J'aimerais que tu nous racontes un peu alors ça, parce que moi, c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est cette impression qu'il était construit au fur et à mesure. Et que tu ne savais pas exactement ce qu'il allait avoir dedans, et que le chemin ou le parcours ou les rencontres le construisaient. Je trouvais ça vraiment bien. Comment ça s'est passé ?
Ben en fait, c'est assez juste comme impression, parce qu'il n'y a pas de re-rencontres par exemple. C'est que des premières rencontres et des rencontres uniques de gens dans le train. Oui, il n'y a pas grand-chose de préparé. Il y a la fréquentation des lieux avant. Quoi. Mais c'est vrai que le tournage, en plus, a été un peu précipité par une résidence que j'ai faite à Charleville-Mézières, donc au point de départ du film. Et que le trajet s'est fait comme ça, oui, au fur et à mesure, sur une assez longue durée. Ce qui est, j'ai eu la chance de pouvoir tourner pendant 6 mois, donc de vraiment sillonner, de faire beaucoup, beaucoup de rencontres. Et donc de pouvoir choisir au final mes rencontres. Il y a beaucoup de gens qui ont été filmés qui ne sont malheureusement pas dans le film, évidemment.
Et le film a un fort caractère social, en fait. On voit des gens qui sont en lutte, qui essayent de résister dans des villes qui sont en train de se
devenir des sortes de
villes fantômes.
Ouais.
Ça, c'était prévu ? Tu avais envie de parler de ça ou c'est arrivé aussi sur la route ?
Non, c'était prévu. Ça, c'était vraiment prévu. Le trajet de Rimbaud est devenu assez vite un prétexte un peu pour parler de ça, quoi. La désindustrialisation. En fait, j'ai fait une émission de radio sur la fermeture d'une usine qui s'appelle Tomé Génaud pendant la campagne présidentielle qu'a donné Sarkozy en France. Donc on est en 2007, et donc c'était quand même ça au départ qui m'intéressait, quoi. Et voilà, avec Rimbaud comme un peu comme prétexte, comme clé, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est parfois les surprises qui sont même à l'écran. Moi, je pense à cette dame que tu rencontres dans le train et qui vient. Tu apprends. En fait, c'est assez incroyable parce que tu apprends en même temps que nous qu'elle écrit, en fait. En plus, elle adore Rimbaud. Tout ça est une surprise totale. Et alors, c'est assez rare, en fait, dans le documentaire d'assumer tellement ce côté un peu imprévu des choses qui va t'amener à lui faire lire un texte. Quelle est la part justement de surprise que tu as gardée à chaque fois dans ce film ? À quel moment tu t'es laissé surprendre à part cette dame ?
Mais en fait, je crois que la tendance en ce moment, c'est un peu de tourner le dos à la parole, parce que il y a toujours ce truc que le documentaire doit pas filmer des talking heads, des gens qui parlent. Et c'est vrai, il y a un aspect un peu formaté de la prise de parole à la télé, etc. Moi, ça m'intéresse, la parole des gens. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de garder des prises de parole où justement il y a une forme à chaque fois d'accident et de quelque chose qui vient de perturber le discours. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup joué là-dessus. Mais c'est sur cette rencontre-là, de cette dame dont tu parles, ce qui est, moi, me touche, bah, bon, hormis le fait que c'est des gens très beaux pour moi et très touchants, c'est qu'il y a, c'est un pied de nez aussi au truc de dire bon, la poésie c'est un truc de spécialiste, de ceci, de cela. Là, c'est, voilà, c'est des gens qui sont dans des situations sociales pas très élevées et qui ont tout à fait un usage de la poésie, une compréhension de la poésie, etc.
Alors justement, tu t'attaquais à Rimbaud comme, comme prétexte, comme base pour faire un film, ça n'est pas, pas trop dangereux, t'as pas eu des réactions au moment de rentrer des dossiers, de le produire, est-ce que ça n'a pas
été... Les gens qui ont voulu par exemple t'assassiner,
est-ce que tu as eu des menaces?
Comment ça s'est passé avec le service secret français, par exemple?
Je sais pas, dans un autre, j'ai un coup de fil de l'armée pour savoir ce que j'ai fait à JV et autour de la centrale nucléaire de Chaux, mais à part ça, ça va. Et pour ce qui est de Rimbaud, j'ai eu aucune aide de la France à part cette résidence à Charleville-Mézières, parce que parler de Rimbaud d'un point de vue, en disant je vais pas filmer des spécialistes, hey, ou le maire de Paris, ou voilà, quelqu'un pour accrédité pour parler de Rimbaud en France, c'est pas possible. Donc c'est un film purement belge de ce point de vue-là. Mais oui, c'était un gros morceau et je suis devenu spécialiste de Rimbaud malgré moi, parce que en plus sur le trajet j'ai découvert un inédit, j'ai dû travailler sur ce poète et ça a été très très dur de pas faire un film sur Rimbaud en fait. C'était compliqué.
Ce que j'ai trouvé bien, enfin moi je me suis fait prendre par la surprise aussi justement que qu'à un moment donné ça parle plus de Rimbaud mais ça parle du regard que tu poses sur sur cette région. Donc j'étais conquis par cette forme de narration. Mais ce qui m'a plu aussi au début, c'est le jeu que tu fais pour essayer de rendre la poésie accessible. Enfin, bon, toi, ta voix est présente et tu lis les textes, mais justement, à plusieurs reprises, tu mets les textes dans la bouche d'autres gens. Et parfois, en plus, je trouve que c'est chouette parce que ça montre la difficulté de la lecture de la poésie. Des fois, c'est heurté, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. Nous non plus, on ne comprend plus parce que c'est pas fluide comme lecture. Et alors après, ça nous est rendu par toi, où là, certainement, soit tu lis mieux, soit tu l'as travaillé, je sais pas. Ça, tu avais pensé à ça aussi tout de suite, de donner à lire le texte ?
Non, pas du tout. Et en fait, je me suis heurté à ce problème-là. C'est-à-dire que j'ai pensé à plein de gens pour dire des textes. Il y a des textes qui étaient dits, que j'ai pas mis, parce que... le problème, c'est le problème du casting, quoi. C'est un problème d'accorder des gens entre eux. Et si je dis les textes moi, c'est parce que justement, je pouvais pas me permettre de mettre là-dedans un acteur qui allait dire ça de façon extrêmement académique, etc., à côté de gens qui découvrent le texte, en fait. Et c'est vrai que ça soulève aussi le problème de savoir pourquoi Rimbaud, qui est à la fois un poète très engagé socialement, ouvriériste au moment où je le capte, est absolument pas accessible aux gens dont il parle, et toujours pas d'ailleurs. Mais en fait, à son époque, il faut bien voir que il y a très très peu de gens qui peuvent lire de la poésie. On n'est pas encore à l'école obligatoire, quoi. Donc il y a toujours ce paradoxe chez Rimbaud, ça reste toujours relativement obscur.
Mais il y a donc... J'étais un peu étonné, moi, de cette présentation de Rimbaud comme un Rimbaud de gauche ou qui aurait eu un... Pour moi, j'avais l'impression qu'il avait écrit sur les ouvriers comme il a écrit sur le reste, que c'était une figure... c'était un matériel pour lui d'écriture, comme il a pu s'émerveiller d'autres choses, mais... Pourquoi toi, tu vois ça en...
C'est vrai qu'on connaît pas forcément le côté politique.
Dans ton film, j'ai l'impression que ça en dit beaucoup sur toi. Alors pourquoi, toi, tu poses ce regard sur Rimbaud?
Bon, déjà, il y a quand même un truc, je ne me suis pas basé sur beaucoup de travaux de spécialistes, il y a deux bouquins qui m'ont en gros donné envie de faire le parcours et d'en parler, mais il y a un gars en particulier, un spécialiste de Rimbaud, pour ne pas employer ce terme horrible, qui s'appelle Steve Murphy, qui est un chercheur d'origine anglaise qui travaille à Rennes, je crois, et qui a écrit plusieurs bouquins pour repolitiser l'œuvre de Rimbaud, qui a quand même été sacrément dépolitisée, notamment par sa sœur qui était catholique. Enfin, il y a tout un travail pour dire, voilà, il a été communard dans sa jeunesse, mais en gros, ça ne l'intéressait pas. Et en fait, quand on lit les textes de son point de vue à lui, de chercheur, il y a énormément d'allusions à la commune, etc. C'est-à-dire des poèmes qui n'ont pas du tout l'air de parler de choses politiques, comme les poètes de 7 ans. C'est quand même écrit pendant la semaine sanglante, et si on sait pertinemment qu'il n'était pas... Enfin, pertinemment, non, c'est pas pertinemment, mais on suppose qu'il n'était pas à Paris, en fait, qu'il était à Charleville, et que, voilà, il n'a pas participé à la commune, mais il était complètement là-dedans. Et c'est un poème qui participe complètement de ce soulèvement. Moi, je pense vraiment que Rimbaud était très marqué par la Commune. Après, il y a ce que moi j'en fais avec mon ouvriérisme à moi. C'est-à-dire.
Toi, tu ne l'as pas vécu, mais tu as l'air d'avoir été fort marqué par la Commune également.
La Commune de Marseille, la Commune de Scarbeck.
Il y a quelque chose, c'est de l'histoire et c'est du mythe aussi. C'est un mythe fondateur, non, la Commune, pour les gens qui aimeraient que le monde change, non ?
Ben oui, mais c'est-à-dire, en fait, là, c'est je ne sais pas si c'est tout à fait clair dans ce que j'ai fait finalement, mais j'ai l'impression que les questions sociales... Hier, il y a un film très beau sur les grévistes d'Aulnay qui est passé dans le festival. On voit une lutte ouvrière dans ce qu'elle a de, je sais pas, de réel, de concret, et pas du tout de mythologique. Et malgré tout, c'est des événements qu'on lit toujours à travers des visions mythiques du grand prolétariat, parce que la France est un pays où il y a eu un parti communiste... imposant, pontifical, jésuitique, c'est incontournable les références du PC en France. Donc quand on voit des ouvriers qui font grève, il y a des espèces de poncifs et de projections spontanées. Et je pense que Rimbaud était déjà dans cette problématique parce que lui, son grand mythe, c'était la Révolution française. Et donc c'est normal que quand il passait, qu'il voyait des ouvriers qui étaient dans la vallée de la Meuse, ça l'intéressait absolument pas parce que c'était pas ça qu'il cherchait en termes de révolution. Il voulait... des figures beaucoup plus qui correspondent beaucoup plus à ses propres mythes, quoi. Et moi, ça m'interroge parce que quand je filme des ouvriers en train de dans une lutte comme ça qui est manifestement perdue d'avance et que voilà, on n'est pas du tout dans un mouvement révolutionnaire, et ben voilà, ça m'interroge sur qu'est-ce que moi je cherche là, qu'est-ce que je viens faire là, qu'est-ce que c'est ce spectacle déçoit en moi, des choses comme ça, quoi.
Bah, lorsque tu filmes, pour moi, il y a aussi tu filmes aussi de la dignité, non ? Enfin, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas révolutionnaire, mais il y a de la résistance.
Oui, il y a ce personnage qui dit qu'il va continuer jusqu'au bout et qu'il n'a pas perdu 5 semaines à pas voir ses gamines pour arrêter la lutte là et qu'il va la continuer parce que justement pour retrouver sa dignité peut-être.
Mais en fait, c'est un truc général, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des luttes de soutien où on soutient des gens qui sont dans des positions de domination et on a toujours tendance à les enfermer dans ce statut de dominé. Alors qu'en fait, quand on regarde de près, c'est des gens qui sont complexes, qui ont leur humanité, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement déceptif. C'est au contraire très beau de voir des humains se dégager d'un truc où on les a enfermés. Et donc ce gars-là, en fait, il parle de problèmes qui pourraient paraître dérisoires par rapport à des attentes qu'on aurait, d'un point de vue idéologique, mais en fait, il parle de choses très belles, quoi. Son rapport à son père qui était ouvrier, le fait qu'il a vécu dans la religion du travail et que maintenant, il va être un précaire comme tout le monde, parce que c'est ça qui est en train de se passer, en fait, dans ce qu'on voit là.
Dans la mise en scène de la parole ou ce que tu as filmé ou comment tu l'as fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est... Du coup, il y a des moments où tu vas rencontrer ceux qui prêchent le changement dans les villes et qui prêchent l'arrivée de nouveaux commerces, ce genre de choses. Et alors, il y en a vraiment, ils sombrent dans une sorte d'humour involontaire. Je pense que c'est peut-être à cause du montage ou comment tu les as filmés, mais ils se mettent à expliquer ce qu'ils vont faire et c'est juste complètement ridicule. Je sais pas comment tu fais pour pas rire quand tu les filmes. Et j'imagine que là, c'est un clin d'œil, c'est un choix, non, de transformer ces gens qui deviennent une sorte d'illustration du vide de leur langage.
Mais ça m'intéresse beaucoup, le vide de la communication, c'est-à-dire comment on parle avec des mots qui ne veulent absolument rien dire.
Mais d'ailleurs, le personnage dont tu parles lit un texte. En fait, tu le vois parfois, il a un truc devant lui et il a des mots. Tu vois, il tient un carnet. Et alors, il se réfère toujours à son carnet. Moi, ça m'a marqué. Parce qu'il emploie des mots qui sont marqués sur un.
C'est pas le même film. C'est pas le même film.
Je suis perdu là.
Le responsable de.
Ça, c'est dans Comme des lions.
Non, pas du tout. C'est que tu as le gars qui parle du centre de l'hypermarché, du centre commercial qu'il va s'installer. Son regard plonge parfois et tu vois qu'il a un papier.
Non.
Je pense qu'il plonge parce que.
C'est une impression.
En fait, quand il cherche un mot, il commence ses phrases, c'est marrant.
Oui, c'est ça.
Et
en fait.
Il regarde la caméra parce qu'on lui a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Et puis à un moment donné, il a commencé une phrase, il se rend compte qu'il a besoin d'un deuxième adjectif. Parce qu'il a fait une phrase avec un et. Ce sera moderne et. Et là.
Mais c'est ça, mais tu le perds complètement.
Son regard se perd, il cherche un mot et puis il dit genre une sorte de synonyme de moderne.
C'est-à-dire qu'il répète obstinément que son projet est moderne parce que c'est son seul argument. et que ce gars-là, oui, c'est un. On est dans une province très enclavée. La vallée de la Meuse, c'est un couloir qui mène à une frontière, qui vivait de la frontière d'ailleurs, et qui aujourd'hui, n'ayant plus de frontières, ne vit plus. Quoi. C'est catastrophique. Et ce gars-là a pris une importance sidérante parce qu'il est responsable d'un Intermarché. Il faut savoir qu'il y a un Intermarché par ville dans la vallée de la Meuse. C'est des fois 2 kilomètres. Hein. Et lui, donc, il est dans la mort. Il a conçu un nouveau centre commercial qui va lui permettre d'abandonner un quartier ouvrier où évidemment il n'y a plus personne pour son magasin. Et son seul argument, c'est que c'est moderne. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a dans son bagage. Et il le répète obstinément, mais il rabâche effectivement des formules de communication. Mais bon, j'avais un truc à dire là-dessus, mais
vas-y, tu veux plus le dire.
Tu l'as perdu.
Je pense que j'ai oublié. Ouais.
T'as tourné ce film en 2008 et il sort maintenant.
Qu'est-ce que t'as fait,
Patrick ? Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les...
C'est toujours le moment dur de l'interview. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?
Un problème de dos ?
Non.
Tu as pu partir en vacances, je sais pas.
J'aimerais pouvoir dire ça. Ouais, non, en fait, ça m'intéressait plus. Puis je suis revenu, non. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Enfin, je pense que je pourrais faire un manuel de tout ce qu'il faut pas faire pour réaliser un documentaire rien qu'avec ce que j'ai vécu. J'ai voulu monter le film tout seul, ce que je conseille vraiment à personne, surtout pour un film de ce genre où on a beaucoup beaucoup de rush, etc. Donc c'était très compliqué à monter. La production a été un peu chancelante, pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a que les. J'ai dit hein, tout à l'heure, il n'y a que la Belgique qui a donné de l'argent. C'était un bon budget en soi, mais voilà, on n'en a pas vu vraiment les limites. Et donc, on s'est un peu embourbé là-dedans, puis des problèmes personnels, etc. Mais de toute façon, c'était un projet qui, dès le départ, était casse-gueule, parce que j'y mettais beaucoup, beaucoup de contradictions personnelles, hein, je crois. Je voulais faire à la fois un film littéraire et un film social. Il y a eu 4 versions à peu près du film, dont des versions beaucoup plus littéraires, beaucoup plus didactiques, que j'ai toutes jetées au panier les unes après les autres.
Quel rapport on entretient avec... Bon, tu dis qu'il y a peu de production, mais... Il y a quand même une production derrière. Comment on entretient un rapport avec son producteur quand ça prend autant de temps ? Est-ce qu'il y a eu de la pression à un moment donné ou pas ? Est-ce que tu peux le dire ?
Est-ce qu'il y a eu des coups de boule ?
Joker.
Non, c'est... Il y a eu des menaces, des battes de baseball.
En fait, on a produit le film en couple.
D'accord.
Et dans notre cuisine, comme on faisait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Enfin, aussi, sans doute, mais je connais des couples qui arrivent à tenir à cette épreuve, mais le nôtre n'a pas résisté, par exemple. Et donc, ça a été compliqué, ouais, dans ce type d'organisation et de travail. Et oui,
non... Non, mais c'est parce que c'est clair.
Tu vas laisser Patrick tranquille.
Non, mais c'est parce que moi ça m'intéresse le temps de production.
Ah,
d'un
ça
film
t'intéresse,
parce que
mais tu vois bien qu'il est.
Mais non, mais c'est même de manière générale, c'est le temps de production d'un film.
Ouais, c'est dingue ça. On va parler du tournage. Là, c'était le moment où ça se passait
on a
bien.
Pas, on n'a pas toujours le temps on n'a pas toujours le temps qu'on voudrait pour faire un film. Et parfois, on peut se dire, mais c'est un super luxe de se dire, le film il sortira dans 6-7 ans quand je serai content de ce film-là en fait, quand j'en serai vraiment content. C'est quelque chose que peu de réalisateurs parviennent à faire en fait. La plupart des réalisateurs ils vont dire bah non, écoutez, voilà, j'avais une pression,
fallait que je sorte.
Je termine un peu à la va-vite parce que j'ai plus forcément les moyens, parce qu'il faut que je passe à autre chose. Parce que
c'est... Non, mais clairement, mais c'est à double tranchant. Je veux dire, si je compare, parce que moi je viens de France et j'aurais très bien pu atterrir à Paris si j'avais pas été Marseillais, c'est-à-dire horriblement anti-parisien. j'ai débarqué à Bruxelles en 2000, j'ai fait une école, je suis arrivé dans ce festival précisément et je me suis dit que c'était vraiment l'endroit pour venir faire les films que je voulais faire. Donc je suis tout à fait content des conditions de production à Bruxelles qui, à mon avis, n'existent pas à Paris. À Paris, on ne peut pas faire 2 pas sans rencontrer un pisse-vinaigre pour vous dire quoi faire. Bon, ici, on est seul.
Ouais.
Donc, horriblement seul et à la fois librement seul, c'est
ça,
clair. Mais je suis tout à fait conscient de ça. Ça a été une torture mais que je me suis infligé, donc j'en veux à personne. Je suis content que ce soit terminé. J'ai même tendance à me dire que je suis content que ce soit mon dernier long métrage. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de sa propre
d'un désir,
de sa propre ambition.
Alors, nous sommes contents d'avoir reçu Patrick pour son dernier film. Voilà. Là, vraiment, le dernier. Juste pour finir, peut-être un sentiment aussi de liberté sur le tournage. Est-ce que tu étais tout seul, en fait ?
Non.
On a l'impression que tu y as tes pérégrinations et puis que tu serais là. Parce que les gens te parlent, justement, ceux qui se font un peu avoir au jeu de la langue de bois, ont l'impression que tu es là, que tu leur poses, tu es tout seul. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette impression de te voir sur les routes.
À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais très... Bon, je le suis toujours, mais enfin, j'étais plus admirateur encore des cinéastes qui, justement, partent seuls, genre Denis Gerbrand, tout ça. Donc, dans mon projet, il y avait l'idée de vraiment partir seul. J'ai même envisagé de camper, de faire des choses totalement absurdes.
De camper avec la caméra.
Exactement.
Dans la canadienne. Alors, c'est là, au niveau de la production, il y a eu un problème. Donc, la première caméra...
Quand il s'est fait piquer,
on en a cassé deux, figure-toi.
Ah oui,
ah oui.
D'accord.
Ouais, quand même.
Oui, il y en a une qui s'est prise un train dans la tronche.
Et vous filmez un petit peu trop près des trains.
Parce que Thibaut pose des questions parce qu'il aimerait bien produire un jour du documentaire. Comme ça, il sait ce qu'il faut pas faire.
Non, mais c'est bien, ça rentre dans le manuel de toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Mais...
C'est un lourd chapitre, ça. Et donc finalement, on est parti à beaucoup plus à deux que ce que je pensais. Je pensais qu'il y aurait une partie qu'on filmerait à deux et une autre que je filmerais seul. Il y a des choses que j'ai tournées seul. C'est des choses qui, sur le plan du son, sont les moins bonnes, évidemment. Parce que du coup, je suis parti avec un preneur de son, Aurigan Canella, pour ne pas le nommer, qui en plus est non seulement un type extra, mais c'est vraiment un très bon ami. Je pense que sans un très bon ami, j'aurais pas pu faire ce qu'on a fait, ce que je lui ai fait subir. D'aller tourner là-bas sous la pluie, tout, voilà.
Ce sera le mot de la fin. Un bon ami un vaut bon mieux ami. Qu'un mauvais producteur. Pour faire un film.
Et je pense que souvent, tu fais un film avec un bon ami et un mauvais producteur. Effectivement. Merci Patrick.
Merci à vous.
On va
rappeler quand même que la seconde fugue d'Arthur Rimbaud sera projetée dimanche. Dimanche, c'est dans deux jours. À 22h15.
Mais non, dimanche, c'est demain.
Demain c'est oh putain, moi je suis complètement perdu dans la semaine.
Mais il a dormi chez Georgette.
Bah, j'ai dormi chez Georgette, moi c'est un peu. Donc c'est demain effectivement, on n'est pas vendredi, on est samedi. Donc demain 22h15 et tu es repris dans la section compétition belge. Bonne chance Patrick.
Merci.